En avant la musique, bonjour à toutes et à tous. Alors, mon invité du jour est journaliste dans le domaine des musiques traditionnelles et est aussi un passionné d'accordéon. Et je sais, chers auditeurs, que vous êtes nombreux à aimer ça, donc on en parlera tout à l'heure, parce que depuis que Martine Besson nous a quittés, ça doit vous manquer. Alors, parmi ses nombreuses activités, on peut retenir que dans sa prime jeunesse, il a été un des initiateurs, si ce n'est l'initiateur, mais on lui demandera tout à l'heure, du Festival des musiques traditionnelles de Ris-en-Régis. Plus tard, il a été aussi directeur du Festival de Saint-Chartier, vous savez, celui qui aujourd'hui s'appelle le Son Continu et qui est domicilié à Ars. Et de ça aussi, nous parlerons très prochainement dans une émission. Il est aussi cofondateur de Trad Magazine, aux côtés de Roland Delassus. Avec André Ricrot, il a été le cofondateur du label de musique enregistrée Silex, puis fondateur du label 5 Planètes. Avez-vous deviné de qui il s'agit? Non, alors, je vous donne encore quelques indices. Il a publié des ouvrages qui témoignent de l'éclectisme de ses centres d'intérêt. C'est un homme très, très curieux. Il a publié l'accordéon, quelle histoire, voilà, on est toujours dans l'accordéon. Il a publié aussi les nouvelles musiques traditionnelles avec Jean-François Duterte, ou encore les chevaux de trait, et oui, ça vous montre l'étendue de ses champs d'investigation, ainsi qu'un recueil de photographies à propos de musiciens cajuns, les haricots sont pas salés. Philippe Prume est avec nous et nous en sommes ravis. Bonjour Philippe.
Bonjour José.
C'était pas mal mon Wikipédia.
Oh bah là, j'ai les chevilles gonflées. Incroyable, ouais. Je peux plus sortir de dessous la table.
Ouais, mais c'est pas complet. Hein. Alors, j'espère que pendant l'émission, on aura le temps de compléter, mais une demi-heure, c'est toujours très très court. Alors, vous êtes venu pour fêter l'anniversaire de l'AMTA, qui s'est déroulé donc la semaine dernière et qui s'est terminé hier. Et pour nous, c'est parfait, parce qu'ainsi, nous pouvons profiter de votre présence. Vous avez bien voulu vous livrer un exercice particulier, faire la programmation musicale de l'émission et nous donner les raisons de vos choix. Alors, c'est parti pour un premier titre.
Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Et si tu as trop de machines, ça semble renfermer. Et puis, bonté divine, on voit pas nous tourner. Je voudrais voir le village là où ce que je suis né. Ta barque sur le rivage, les agrès à côté. Je voudrais voir l'alouette et l'entendre chanter. Regarder les mouettes le soir seul avec toi. Sur la rive, la caille s'envoler, voir travailler la grive, l'odrette devant moi. Partons, la mer est belle, embarquons-nous demain. J'ai rapiécé la voile d'un grenier ce matin. Avec la marée, prends-moi de la morue fraîche, j'ai-tu le goût d'en manger. Je veux pas mourir en ville, toi aussi bien que moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Et si y a trop de machines, ça sent le renfermer. Et puis, bonté divine, on voit pas nos journées.
En avant la musique, José Dubreuil.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, mais pour ceux qui prennent l'émission en route, nous sommes en studio avec Philippe Krum. Et aujourd'hui, une particularité dans cette émission, c'est lui qui a assuré la programmation musicale. Et donc, après chaque titre ou avant, on verra bien, il va nous dire qu'est-ce qu'on a entendu. C'était magnifique toujours.
Laurence Lepage, un Québécois qui malheureusement nous a quittés l'an dernier. Et c'est un monsieur qui a une histoire assez incroyable, puisque au Québec, il s'est passé un peu comme en France, il y a le revivalisme des musiques traditionnelles, l'intérêt pour toutes ces musiques populaires démarre fin 60. Et ce qu'on a entendu, Mon vieux François, ça a été un peu l'hymne à l'époque, puisque vous avez entendu, c'est un retour à la nature, qu'on quitte la ville pour aller vers la nature. Ça a été un hymne des folkeux québécois, on peut dire. Puis après, le monsieur, pourtant c'est un chansonnier qui a écrit vraiment des très 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 belles chansons. Et il a été
oublié.
Ça s'est oublié, petit à petit, il a disparu. Et là, il y a 3 ans, y en a qui l'ont redécouvert et qu'on refait un disque avec lui. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait le disque et tout, mais il n'a pas vraiment survécu longtemps à la sortie de cet album. Voilà, c'était un petit
clin. Quel âge, ce monsieur ?
Il a 84 ou 5. Et là,
au moment de l'enregistrement du disque ?
82, je crois, ouais. Et donc voilà, c'était. Et on a un peu la même chose aussi dans plein de pays, en France, des musiciens qui à un moment sont chantés par tout le monde, et puis après, ça s'étiole, et puis ils disparaissent comme ça.
Oui, puis vous nous avez fait un clin d'œil au Québec, parce que c'est un pays que vous aimez beaucoup, je crois.
Ah oui, ça c'est sûr. Le Québec, depuis des années, j'y vais plusieurs fois par an, et oui, ça c'est un de mes grands pays. Laurence Lepage.
Bien, on va retenir. Alors, si nous avons le temps au cours de cette émission, on reviendra sur votre parcours, mais il y a une actualité aujourd'hui vraiment très importante, et on va commencer par ça, parce que c'est toujours le présent qui est le plus important. Les éditions Émile. Alors,
oui.
Vous avez mis ça sur les fonts baptismaux il n'y a pas si longtemps. Racontez-nous ce que sont les éditions Émile.
Eh bien, il y a 28...
Les éditions, j'ai dit les émissions, les
non,
éditions.
Les éditions. Il y a 28 ans, avec, vous l'avez souligné au début, Roland Delassus, on avait mis nos forces en commun, on avait créé Tran Magazine et il y avait toujours eu un éditeur, en fait. Moi, j'en étais le rédacteur en chef, mais il y avait toujours un éditeur. Et puis, les 6 dernières années, on va dire ça pudiquement, l'éditeur, ça le faisait pas, comme on dit pour faire jeune. Donc, on a décidé avec les copains de créer une SCOP.
C'est quoi une SCOP ?
Une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production, c'est-à-dire qu'on se met tous ensemble et on y va. Donc on s'est tous mis ensemble, on a créé ça, on a mis nos petits sous et tout, on a cherché des subventions, on a été gratté aux banques, pas facile. Et on a créé au 1er juillet 2015, donc c'est tout neuf, une SCOP qui a donc racheté à l'ancien éditeur, Tran Magazine et un autre magazine que j'avais créé il y a 16 ans qui s'appelle Accordéon et Accordéoniste. Et vous allez me dire pourquoi les éditions Émile ?
Eh oui, il anticipe les questions, c'est bien.
Pourquoi les éditions ? Ben, Émile, parce que je me suis amusé à trouver ce nom pour embêter les gens. Émile, c'est parce que, comme vous le savez, un de mes grands musiciens historiques, c'est Émile Vacher, qui est le créateur du genre musette, pour moi aussi l'inventeur de la Java. Donc, quelqu'un d'important dans les musiques populaires parisiennes. Je suis un affreux parisien. Et donc,
ça s'entend, on n'a pas besoin de le dire.
Et donc, quand on dit Émile, ah ouais, populaire et tout, et j'aime bien rétorquer, oui, mais c'est aussi l'Émile, l'éducation de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Donc, je mets en parallèle Émile Vacher et Jean-Jacques Rousseau. Ça m'amuse beaucoup. Voilà pourquoi les éditions Émile.
Priez pour m'en être capable de sortir. la raconte pour cette danse de la prison là. Quand Défunt Douglas a fait ça, là, il était dans la prison.
Il avait sorti de la prison. Il avait tué un homme.
Défunt Douglas avait tué un homme.
Dans un poulailler.
Il t'a volé l'épaule. Et Défunt Douglas l'a tiré, il l'a tué.
Il l'a tué dans le poulailler.
Là, il a été mis dans la prison.
Ouais, mais il a.
Là, tandis qu'il était dans la prison, je pensais là, il a jonglé à faire cette chanson. Hein.
Non, quand il a sorti.
Alors, nous sommes toujours en présence de Philippe Krume. Et nous sommes sur France Bleu Pays d'Auvergne et nous sommes toujours dans une programmation surprise. Alors Philippe, moi j'ai deviné évidemment que c'était de la musique cajun, mais j'en sais pas plus, alors dites-nous tout.
On est en Louisiane avec un monsieur qui était un monsieur fantastique qui s'appelait Bi Fontenot. Son frère aussi, c'est toute la famille Fontenot. Il y a Canret Fontenot, il y a Freeman Fontenot, il y a Boissec Fontenot, toute une famille. Mais Bi, c'était le plus ancien. Et c'est un des seuls qu'on a rencontré qui jouait du blues, qui vraiment du blues à l'accordéon. Et là, ça raconte donc une histoire, c'est les barres de la prison, d'une histoire d'un prisonnier. Comme vous l'avez peut-être compris à la fin, un gars qui avait tué un voleur de poules dans le poulailler, mais il s'est quand même retrouvé la prison. Et voilà, c'est des musiciens, c'est aussi des Français d'Amérique, c'est des gens, c'est un petit kilo. Et entre autres, cet enregistrement a été fait par un camarade, Jean-Pierre Bruno. Pour l'anecdote, il était étudiant en cinéma à New York. Et puis, il est dans un café. Et puis, à côté, ça parle français. Alors, il dit « Ah, vous êtes Québécois ?» Et le gars, il dit « Non, moi, je suis Cajun. » Et il n'avait aucune idée qu'il y avait des Américains qui parlaient français, des Français qui vivaient en Louisiane. Et donc, il est descendu, il a fait des enregistrements. C'est les seuls enregistrements connus de ce monsieur Bi Fontenot, qui avait une tête incroyable parce que c'était un métis moitié noir, moitié indien. Il y a les Indiens Houma là-bas. Et donc, voilà, c'était voilà, toujours pareil.
Pareil, vous adorez la Louisiane aussi.
Ah, la Louisiane, c'est oui, c'est ouais. Aussi.
Vous avez été plusieurs fois là aussi.
Oui, pendant plus presque 10 ans, j'y suis allé 3 mois par an.
Ah oui, d'accord.
Et ça, voilà, accordéon, musique traditionnelle, c'est vraiment des musiques vivantes avec des gens qui... C'est leur musique et c'est des musiques qu'on n'entend jamais.
Donc, vous avez bien fait de venir jusqu'à nous pour nous en faire écouter, parce que c'est vrai que d'ordinaire, on écoute essentiellement de la musique originaire d'Auvergne. C'est-à-dire qu'on est très, très riche aussi en Auvergne, donc on a de quoi tenir la programmation toute l'année. Alors, édition Émile, 2 magazines, donc Trad Magazine et Accordéon Accordéoniste. Donc, on va faire un peu un focus pour l'instant sur Trad Magazine. Trad Magazine a combien d'années d'existence ?
Eh bien, ça fait 28 ans.
Mon Dieu.
28 ans, ça fait 116 pages, tous les 2 mois. On est un bimestriel, donc 6 numéros par an. Mais ça fait quelques pages depuis 28 ans qu'on a écrit.
Tout à fait. Et alors, vous êtes particulièrement bien placé à l'endroit où vous êtes, forcément, pour remplir toutes ces pages tous les 2 mois, pour observer le terrain des musiques traditionnelles. Et puis, comme maintenant, vous commencez à grisonner aussi un petit peu, vous avez un champ, une perspective de champ qui vous permet de faire un peu une analyse de l'évolution de ce secteur. Vous diriez quoi, comme ça ?
Bah, que le secteur va plutôt bien. Malheureusement, il est très peu, et ça, c'est pas à vous que je vais le dire, très peu médiatisé au niveau national. On souffre de ça, quoi. Ces musiques-là, mais on parle pas seulement de musique auvergnate, bretonne ou occitane ou quoi. On parle aussi des musiques traditionnelles de tous les pays du monde. Soit on les entend un peu comme anecdote, regardez comme ils sont beaux avec leur instrument bizarre, mais c'est très très peu médiatisé. On est aujourd'hui le seul magazine traitant de ces musiques-là en France. Il n'y en a plus.
Ouais.
Il y en a eu un moment, mais il n'y en a plus.
Et alors donc, moi je tenais absolument à vous inviter à cette émission, puisqu'il y a un soutien vraiment à apporter par vos abonnements à ces revues, parce que c'est très important, parce qu'un secteur existe par tous les praticiens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, mais il existe aussi grâce aux revues et aux relais que représentent ces revues. Alors, oui, pardon.
Oui, sachant qu'on a aussi donc beaucoup de chroniques de disques dedans, entre 60 et 80 par numéro, pour présenter les albums qui sortent. Là aussi, ces albums-là, c'est à peu près le seul endroit où on peut trouver des lignes dessus.
Oui, c'est quoi la ligne éditoriale pour tous ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui Trad Magazine ?
Je dis toujours, c'est Grandes Oreilles, c'est les musiques populaires du monde. Donc, on part de l'Auvergne jusque n'importe quelle musique populaire du monde. Encore aujourd'hui, on peut dire que les 3/4 de la planète n'écoutent ni du rock, ni du jazz, ni de la musique classique, mais ce que nous, on appelle en France musique traditionnelle. Par exemple, on parlait du Québec. Au Québec, ils parlent aussi de musique trad. Par contre, aux États-Unis, États-Unis, ils disent folk. Alors que nous, folk, c'est un des secteurs, c'est un peu différent des musiques traditionnelles. Donc il y a plein de strates, un peu comme dans le jazz, il y a le bebop, le hard bop, le New Orleans. Nous, on a aussi notre petit strat. Bah, on parle de toutes ces strates-là. Donc ça va, en couverture, c'est Julien Barban, sur ce dernier numéro, qui est un musicien, on va dire, polyinstrumentiste, violon, cornemuse, qui fait
qu'on retrouve dans le groupe que les Auvergnats connaissent bien, puisqu'il est venu jouer ici en Auvergne plusieurs fois, La Machine.
Voilà. Et donc, voilà, c'est lui qui est en couverture. Et le prochain numéro, on peut le dire ici, le prochain numéro donc, de juillet à août sera consacré au 30 ans de l'AMTA. Donc, ça sera un peu un numéro spécial. On retrouvera plein d'articles sur toute l'historique de l'AMTA et en même temps des musiciens auvergnats. Le clin d'œil qu'on avait envie de faire, je l'annonce à l'avance, c'est de dire, il n'y a pas que la Bretagne, il y a aussi l'Auvergne.
Oui, mais c'est un peu ça, parce que... Et c'est vrai que... D'ailleurs, quand des musiciens bretons viennent ici, en Auvergne, ils disent, on parle tout le temps de la Bretagne, c'est toujours ce qui ressort, mais c'est vrai que l'Auvergne se porte très très bien.
Appena alzata Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, alla mattina appena alzata in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, e fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, il capo in piedi col suo bastone e noi curve. Verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
Magnifique, Bella Ciao. Alors, je ne connais pas les interprètes puisque c'est un choix de Philippe Krum qui est avec nous aujourd'hui en studio. Philippe Krum des éditions Émile qui produisent le Trad Magazine et accordéon. Niste, accordéoniste, c'est ça.
Voilà, oui, et accordéoniste.
Et accordéoniste, voilà.
Et ben là, alors, c'est un collectif, parce que Bella Ciao, c'est quand même un air, là aussi, emblématique des musiques populaires, là, italiennes. Et là, c'est un collectif, ça a été un spectacle formidable. Et si je vous dis que vous avez entendu Lucila Galeazzi, Elena Leda, Gigi Biolcati, Riccardo Tesi, qui était derrière, il y a Ginevra Di Marco, Andrea Salvadori et Alessio Lega. Très, très joli disque, Bella Ciao. On peut faire un peu de pub, ça c'est chez notre ami de Buda Musique. Et voilà, c'est un très très beau disque, je le conseille à tous les gens. Donc un concept autour des musiques populaires italiennes, sardes. Et voilà, et Bella Ciao ouvre le disque comme ça avec ses voix de femme tout doucement. Et je crois que ça...
Vous l'avez critiqué dans le Trad Magazine ?
On ne critique pas, nous, on chronique, madame.
Oh, pardon, ce n'est pas le mot exact. Et alors donc, ça veut dire que si vous l'avez chroniqué dans le Trad Magazine, ça veut dire qu'on peut le trouver à Auvergne Diffusion, le commander auprès d'Auvergne Diffusion.
Normalement, il n'y a
religion.
Pas de problème, oui, parce voilà. que ça, c'est donc un partenariat qu'on a démarré justement avec la reprise de travailler avec Auvergne Diffusion. C'est-à-dire que les disques chroniqués, on communique, allez, on va expliquer notre petite sauce, on communique à Auvergne Diffusion qui fait la recherche et qui nous renvoie ce qu'il peut trouver avec les prix et donc on peut les commander. Ah, Auvergne Diffusion.
Ah, c'est parfait. Alors moi, je me demandais comment, depuis Paris, on voyait le secteur des musiques traditionnelles d'Auvergne.
Bah, déjà, comme vous le savez, la musique auvergnate est née à Paris.
Et oui.
Non, mais j'aime bien dire ça. Et bah, évidemment, on écoute, on reçoit tout et les gens transitent par Paris. Mais c'est vrai que l'Auvergne et puis les autres régions de France, parce qu'on sait que la Bretagne, de toute façon, ça ronfle tout seul et puis on en entend partout et puis ça marche bien, les cornemuses, tout ça. La Bretagne aussi a la chance d'avoir des têtes de file, si on parle des Stivell, des Serva, et puis des groupes aussi qui tournent bien. C'est vrai que le mot celtique fait plus vendre que le mot Auvergne. Donc là, il y a peut-être un travail à faire, oyez, oyez, genre de la communication d'Auvergne, faites sonner le celtisme, l'Auvergne autant que le celtisme. Donc il y a ce côté-là, mais musicalement, il se passe
des
choses.
Surtout que nous avons notre part de celtitude aussi.
Complètement, oui, voilà. Oui. Mais c'est vrai que, bon, de fait, des cercles celtiques et puis des bagades, c'est des milliers de musiciens. Je pense que là, par contre, en nombre de musiciens pratiquants, on ne peut pas lutter, comme dirait un camarade.
La Bretagne... C'est vrai que les bagades,
C'est une formidable école de musique. Combien de musiciens de bagades, après, forment des groupes, existent et tout, donc en sonnant la bombarde, le binucos. Donc voilà. Mais l'Auvergne est un des creusets importants de la musique. D'ailleurs, je sais que les Bretons ont une oreille bienveillante attentive sur ce qui se passe en Bretagne. Et puis en Auvergne...
En Auvergne.
L'un dans l'autre, tout ça va très bien.
Les Auvergnats ont une oreille attentive vis-à-vis des Bretons aussi, parce que c'est vrai qu'il te sort pas mal de choses de tout ça. Alors, je sais que les auditeurs de France Bleu aiment beaucoup l'accordéon. Alors, on va quand même consacrer un moment de cette émission à accordéon et accordéoniste, qui ne traitent pas que des musiques traditionnelles, mais fois, un tout petit peu quand même.
Oui, on va dire qu'on réserve un petit peu, par exemple, le diatonique un petit peu plus à Tran Magazine, bien qu'on trouve du diatonique aussi dans accordéon et accordéoniste. Accordéon et accordéoniste, c'est toute forme d'accordéon, le jazz, le rock, la chanson, l'accompagnement. On parle du bandoneon, on parle aussi de l'harmonica, puisque l'harmonica est un cousin. On parle de l'accordina, on parle de tout ce qui a des hanches. Peut-être pas rarement de l'harmonium, quoique on a fait quand même quelques articles sur l'harmonium. Donc, par exemple, dans le dernier numéro, on a deux charmantes demoiselles qui animent des balles. C'est Stéphanie Rodriguez et Nathalie Bernat en couverture.
D'accord.
Donc, ça, c'est bien. Et dans le prochain numéro, celui de juin, on a aussi un des rois du musette qui s'appelle Demerson, qui est quelqu'un qui sévit dans le Grand Sud. Et c'est un des derniers grands orchestres musettes.
Et alors, le rédacteur en chef que vous êtes de ces deux revues doit avoir mis en place un réseau de correspondants vraiment très important, parce que pour être au plus près de l'actualité et de la connaissance du terrain, pour avoir une revue qui soit assez fidèle, je pense qu'il faut être nombreux, non ?
Ben, on a pas mal de correspondants et de fanatiques qui sont à droite à gauche et qui nous renvoient des choses.
Des rabatteurs, quoi.
Un peu des rabatteurs. Et puis on reçoit des disques. Ça, c'est un peu un drame. Parce que, par exemple, pour Tran Magazine, je reçois aux environs de 310 par mois. Donc ça, c'est un peu un drame, parce qu'évidemment, on ne peut pas chroniquer 310. Et sur l'accordéon, c'est bien 50 à 70 par mois aussi que je reçois.
De avoir une sacrée discothèque chez vous.
Non, parce que je ne suis pas collectionneur, donc je les donne et tout. Et même là, pour l'anecdote, j'ai décidé de faire un don à une médiathèque de, je ne sais pas, 7, 8, 10 000, 10, je ne sais pas combien. Moi, je ne suis pas collectionneur.
Remarquez, pour les musiques traditionnelles, je connais une structure tout près de chez nous, la AMTA, pour ce qui concerne au moins le Centre France, qui sera très, très intéressé si vous ne savez
pas.
Hein, vous pouvez noter ça. Alors, on parlait pour le personnage un peu Philippe Krum. À quel âge aviez-vous quand vous êtes mis en tête d'organiser le festival de Ris-Orangis ?
15 ans.
Ah ouais.
Et la première édition, j'avais 17 ans.
Et ça c'est venu comment ça ? Comment vous êtes branché finalement sur les musiques traditionnelles ?
Ah bah, je dis toujours, moi j'étais fanat de moto. Mais mes parents n'ont jamais signé ma licence internationale. Et donc j'avais commencé à courir à 13 ans en moto. Et donc, bah voilà, la moto, juste de lire les magazines, c'était pas très drôle. Mmh. Donc, j'ai eu la chance que les grands frères de mes meilleurs copains ont été des pionniers du folk. Donc, des revivalistes qui jouaient du dulcimer, du banjo, du violon d'une drôle de manière. Donc, du coup, voilà, je me suis intéressé à ces musiques-là parce qu'il y avait ces grands frangins qui jouaient de ça. Et puis, un jour, ils m'ont entraîné à la Chanterelle, au Bourdon, enfin, au folk club parisien et tout. Et puis voilà, je suis tombé dedans. Et un jour, avec un copain, on a décidé d'ouvrir notre folk club. On a cherché partout et on a réussi à trouver à Ris-Orangis, une maison des jeunes avec un directeur formidable qui est aujourd'hui un des patrons du mouvement Oulipo, qui s'appelait Jacques Jouet et qui nous a accueillis à bras ouverts. On a commencé par un folk club, d'ailleurs, qui avait un petit nom verrien, puis qui s'appelait La Bourriole. On avait pris un petit tas de merde, des mots verriens, et on avait cherché, comme il y avait le Bourdon, la Vieillère, Donc nous, c'était La Bourriole, et au bout de 2 ans, on s'est dit, on va faire un festival. Waouh ! Donc on a fait un festival, et je me rappelle que la première année, on s'est planté lamentablement. On avait dû dépenser, je crois, 12 000 francs à l'époque, et on avait dû en perdre 6 000. Et le directeur nous avait dit non, c'était super, mais c'est normal, le premier, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Et après, c'est vrai que c'était devenu un moment incroyable, les premiers le champ de Champs Rosés à Draveil, où toute la jeunesse était là.
Quelle année, ça, des
grands moments. La grande époque, ça a été 78-79. C'est là où vraiment ça a été les plus gros, quoi.
Et c'est incroyable quand même de trouver une structure, c'est toute une époque, ça aussi, je pense que aujourd'hui,
et puis une personne complètement ouverte, parce qu'on s'était fait jeter de plein de maisons des jeunes qui avaient dit allez jouer, et quelqu'un qui a, et le folk club de Ris-Orangis est devenu aussi un des plus gros folk clubs et a formé un nombre de gens. Il y avait des stages où il y avait 40 accordéonistes. Voilà, c'était un grand moment.
Alors Philippe, on aurait des tas de choses à se raconter encore. Il faut que vous reveniez plus souvent en Auvergne dans cette émission. Alors je vais dire au revoir à mes auditeurs et les retrouver dimanche prochain, mais vous allez nous dire quel est le titre, le dernier titre, la dernière surprise.
Le dernier titre, c'est Les Gros Cailloux, c'est un disque de Sébastien Bertrand, solo d'accordéon diatonique.
Nous voilà partis avec un solo d'accordéon diatonique. Merci Philippe, et à dimanche prochain, sans faute.